Madame le maire adjoint, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les représentants des fédérations partenaires, mesdames et messieurs les représentants des entreprises partenaires, mesdames et messieurs, chers amis. Merci, madame le maire adjoint, de nous accueillir aussi chaleureusement au nom de Madame Maryse Jouassin, dans la ville de Paul Cézanne et d'Émile Zola. Vous nous avez exposé comment tant la ville d'Aix-en-Provence que la communauté d'agglomération s'impliquent dans l'accueil des personnes handicapées et agissent pour leur faciliter l'accès aux transports, aux équipements publics, aux équipements culturels, et je crois qu'on ne soulignera jamais assez l'importance de l'implication des collectivités territoriales pour faciliter l'accès en général aux personnes handicapées et, pour ce qui nous concerne, aux personnes handicapées sensorielles. Merci, cher Michel Mercier, d'avoir été avec les équipes de l'IRSAM et l'équipe du siège de la FISAF, l'artisan de ce 34e congrès. Après le congrès de Poitiers, qui s'est intéressé particulièrement aux personnes âgées, et le congrès de Toulouse, qui a traité des questions relatives à la petite enfance, ce 34e congrès s'est donné pour thème le droit au travail et à la formation. Il ne s'agit pas là d'une préoccupation nouvelle pour la FISAF, qui, depuis sa création, il y a maintenant plus de 85 ans, a toujours concentré l'essentiel de son énergie sur la formation et l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap sensoriel dont ses adhérents ont la charge. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un congrès qui se situe logiquement dans la continuité des précédents et illustre la volonté de la FISAF et de ses adhérents d'accompagner les personnes handicapées sensorielles à tous les âges de la vie, y compris dans leur période de formation et d'activité professionnelle. Ce congrès, vous le comprendrez aisément, revêt pour moi une importance particulière, puisqu'il fait suite à ma toute récente élection à la présidence du conseil d'administration. Qu'il me soit permis tout d'abord de rendre hommage à l'action de Maryvonne Liazid, qui, après Louise Danet, a présidé notre association jusqu'à l'été dernier. Sa désignation en tant qu'adjointe du défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité ne lui permet plus d'exercer aucun mandat professionnel ou associatif. Dans la lettre de démission qu'elle a adressée au conseil d'administration, elle s'exprimait ainsi. J'ai été très fier de conduire cette fédération en m'appuyant sur des membres du bureau et du conseil d'administration compétents et très engagés dans ce qu'ils entreprennent. Ensemble, nous avons porté haut les couleurs de la FISAF. Ceci n'a pu se réaliser qu'avec l'aide d'une équipe de collaborateurs créatifs et constamment mobilisés sur tous les sujets. La FISAF se porte bien à tous les points de vue. Elle peut envisager son avenir avec sérénité. Cela lui permet notamment de regarder hardiment vers l'avenir pour le préparer en fonction des évolutions qui se présentent, tant pour les établissements et services que pour les alliances à consolider, afin que notre secteur soit toujours plus fort pour compter dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Merci à Maryvonne pour son engagement au service de notre fédération. Évolution, alliance, dialogue. Voilà trois idées que je fais miennes. Quand le bureau du conseil d'administration m'a sollicité pour prendre la relève, au regard de mon engagement déjà ancien à l'Institut national des jeunes sourds de Metz, j'ai accepté en précisant que je me situerais dans la continuité des actions engagées et que c'était à moi de m'adapter. Dans cet esprit, j'ai demandé aux membres du bureau de conserver leurs fonctions auprès de moi. Hormis Francis Guitaud, dont les nouvelles fonctions ne lui permettaient pas de poursuivre sa mission, ils ont tous accepté et je les en remercie très cordialement, et tout particulièrement Annie Renard, qui a assuré l'intérim de la présidence et qui reste bien sûr vice-présidente. Merci à Francis pour toutes ces années passées au bureau et pour le soutien qu'il continuera de nous apporter au sein du conseil d'administration. Et bienvenue à Arnaud Grégoire qui va prendre la suite. La formation et l'insertion professionnelle, je l'évoquais au début de mon propos, sont une préoccupation forte, une préoccupation historique de la FISAF. Rappelons qu'aujourd'hui, plus de 20 services d'accompagnement à l'emploi adhèrent à notre fédération. La formation professionnelle a toujours été un des axes majeurs de l'activité des établissements adhérents et l'une des raisons de notre adhésion à Droit au savoir, dont le président Éric Chenu est aujourd'hui parmi nous et je le salue tout particulièrement. Ces services ont été des partenaires engagés et volontaristes de la GFIP pendant des années, puis du FIP depuis sa création. Ils ont fortement contribué à la revalorisation de leurs prestations de services, étant à l'origine d'un référentiel important qui a inspiré la GFIP pour consolider son offre et ses prestations en faveur des personnes en situation de handicap sensoriel. Ces services se sont beaucoup impliqués dans la préparation de ce 34e congrès, congrès qui est, d'une certaine façon, le reflet de leurs interrogations et aussi de leurs inquiétudes. La FISAF est aujourd'hui présente sur ces questions au niveau national. Elle participe à la commission emploi du CNCPH, et c'est Daniel Favreau qui interviendra à la table ronde numéro 3, qui nous y représente. Elle a été auditionnée dans le cadre du rapport Bunel. Elle s'attache à porter, notamment par ce congrès, les préoccupations de ses adhérents sur cette question centrale. Quelles sont aujourd'hui nos interrogations et nos préoccupations dans ce domaine ? D'abord, une interrogation générale sur le changement de paradigme proposé. Au nom du droit commun, peut-on laisser se défaire les mécanismes de compensation anciens sans vraiment prévoir leur substitution et des financements adaptés ? Plusieurs questions se posent alors, y compris sur les engagements annoncés lors de la Conférence nationale du handicap de cette année 2011. Qu'en sera-t-il des financements AGFIP sur le matériel informatique nécessaire à l'inclusion des étudiants pour qui c'est le seul moyen d'apprentissage ? Qu'adviendra-t-il du financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, transférée de l'État au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ? Des financements des SAVS et des SAMSA à destination des jeunes en destination de handicap de 16 à 25 ans et de l'inscription des jeunes en situation de handicap comme public prioritaire des contrats État-Région pour l'apprentissage. Qu'adviendra-t-il de l'abondement pluriannuel dans les fonds départementaux de compensation ? De l'accès des étudiants handicapés à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés pour encourager leur accueil en stage par les entreprises. De la prime aux entreprises accueillant des stagiaires en apprentissage ou des heures d'interprétariat qui sont considérées comme de l'aide humaine et non plus de la compensation du handicap. Quelles seront les conséquences de l'application du décret sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, adopté le 16 août dernier ? Qui conditionne le versement de l'allocation aux adultes handicapés et surtout qui repose sur la notion ambiguë d'employabilité que les MDPH sont chargés d'évaluer. Quel est l'avenir du dispositif Action pour l'emploi des étudiants handicapés que la GFIP s'est engagée de manière dérogatoire à financer jusqu'en juin 2012 seulement ? La GFIP bénéficiera-t-elle d'une dotation suffisante et pérenne ? Quelle place laissera-t-on dans les schémas régionaux d'organisation médico-sociale aux dispositifs innovants d'insertion professionnelle dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de place dans les dispositifs de droit commun ? Y a-t-il une volonté de tester des dispositifs innovants ? Quelles seront les suites données au rapport Bunel ? Vous l'avez compris, nos attentes sont fortes quant à la mise en œuvre des propositions du CNCPH et notamment celle de la commission formation, emploi adapté et emploi ordinaire, travail protégé, et donc sur le suivi des mesures proposées. Pour conclure, je rappellerai qu'en France, le chômage des travailleurs handicapés s'élève à 19,1% contre 9,5% pour les demandeurs d'emploi valides. 81% des personnes handicapées ont un niveau de formation inférieur au baccalauréat. Lorsqu'elles bénéficient d'un emploi, elles occupent souvent des postes de moindre qualification et ont moins de possibilités d'évolution de carrière. Chaque année, 200 000 inaptitudes au travail sont prononcées, dont 60% aboutissent à un licenciement pour inaptitude. Ces constats mettent en évidence les insuffisances dans l'accompagnement des salariés et des demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés. Cependant, grâce à l'intelligence et à la ténacité des acteurs, la société a pris conscience du problème, les acteurs économiques également, et on voit bouger les lignes. On voit naître un mouvement collectif dans les entreprises, une vraie préoccupation qui va au-delà de la contribution obligatoire. L'entreprise a néanmoins des exigences au niveau de la formation, de l'employabilité dans un contexte économique particulièrement contraignant. La réunion que nous avons tenue hier soir avec un certain nombre d'entreprises partenaires au sein de ce que nous avons appelé le club partenaire en a été l'illustration. Comment alors mettre tout cela en adéquation ? Comment ne pas brader le capital de savoir-faire et de compétences acquis par le secteur du handicap sensoriel ? C'est le défi qui nous est lancé. L'enjeu est à la hauteur de notre mobilisation et j'espère que ce congrès nous permettra de démontrer une fois de plus que nous sommes une force de proposition au service des personnes handicapées sensorielles. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous un fructueux congrès.